Le 20 mai dernier, l'Ombudsman de la ville a acheminé un avis de préoccupation, c'est comme ça que ça s'appelle, de 3 pages à la mairesse de Montréal. Il s'adresse également au maire et au directeur des différents arrondissements de la ville. La raison d'être, en fait, c'est on respectait plus ou moins les besoins pour les gens qui se déplaçaient en situation de handicap. On pense à l'accessibilité universelle, on pense à ces couloirs sanitaires, on pense à ces rues piétonnières. Et l'Ombudsman est avec nous aujourd'hui. La différence, d'abord, Madame Savard, entre votre rôle et le rôle du protecteur ou citoyen?
En fait, c'est un rôle qui est tout à fait équivalent. La différence, c'est le niveau de gouvernement au niveau duquel on intervient. L'Ombudsman de la Ville de Montréal, c'est le protecteur du citoyen, mais pour ce qui concerne l'administration municipale de la Ville de Montréal, alors que le protecteur du citoyen, c'est l'Ombudsman pour tout ce qui relève de la juridiction du gouvernement provincial. Okay. Ce sont des termes qui sont équivalents, Ombudsman, protecteur du citoyen.
Et quel est le pouvoir en ce sens? J'ai lu un texte où vous expliquiez, je crois que c'était dans la presse en décembre dernier, que c'était la première fois avant votre arrivée. Il n'y en avait pas d'Ombudsman à Montréal et que vous sentez vraiment qu'il y a eu influence lorsque vous aviez publié différents avis pour corriger le tir. À quel point, justement, une personne dans votre situation peut aider, peut changer les choses?
Écoutez, la beauté d'un poste comme celui-là, d'une part, c'est qu'on est complètement indépendant, impartial et neutre. Alors, pour les deux parties. Quand on décide d'intervenir dans un dossier, on n'obtient pas d'autorisation préalable des gestionnaires de la ville et on est libre d'aller chercher toutes les informations qu'on juge pertinentes et la réglementation municipale ainsi que la loi provinciale sur les cités de ville prévoit que les gens à qui on demande des renseignements ou des informations ou des documents ont l'obligation de collaborer puis de nous fournir les informations demandées. Alors, ce qu'on fait comme processus, c'est vraiment qu'on s'assoit quand on intervient sur plainte, ce qui est la grande majorité des cas, on va s'asseoir avec le plaignant, on va discuter avec le plaignant. Ça se passe très souvent simplement par téléphone pour s'assurer qu'on comprend bien tous les tenants aboutissants de ce qui le dérange puis de ce qu'il recherche. Et une fois qu'on a fini ça, on fait exactement la même procédure avec l'entité municipale. On part avec tout ça, on fait nos propres recherches, on est autonome au point de vue juridique, on va regarder c'est quoi le cadre législatif qui s'applique, puis si à notre avis l'application qui est faite est raisonnable ou déraisonnable, ou si la qualité du service est acceptable ou pas acceptable. Et quand on s'est fait sa propre opinion, si on pense que le citoyen a un motif fondé de se plaindre, c'est nous qui allons faire l'intervention auprès de la ville pour tenter de faire les choses. Par définition, un ombudsman ou un protecteur du citoyen, ça n'a pas le pouvoir d'ordonner. Alors, on a juste un pouvoir soit de convaincre, qui est 95% des dossiers qu'on traite, on le fait, on convainc les gens de changer leur position, ou sinon un pouvoir d'émettre une recommandation formelle avec le pouvoir d'exiger que la personne nous confirme quelles sont ses intentions par rapport à cette recommandation-là, puis on fait des suivis pour assurer l'implantation lorsqu'on nous dit qu'on va y donner suite.
En vous écoutant, je me rends compte qu'il y a le poste, mais il y a aussi la personne qui doit influencer à quel point les choses vont évoluer avec ce qu'elle dit, parce qu'il y a peut-être des ombudsman ou des protecteurs qui sont un petit peu plus alarmistes, qui vont crier au loup, ce qui fait qu'à un moment donné, on est peut-être moins attentif. D'autres, justement, où on se dit « Oh, si Maître Joanne Savard dit ça, ça doit être vraiment quelque chose sur lequel on doit se pencher. »
Bien, effectivement, je pense que la crédibilité, c'est pas une fonction qu'on confie à quelqu'un, par exemple, qui commencerait une carrière. Pour être nommé, je pense, si on veut être capable d'être, pour avoir une crédibilité professionnelle déjà établie. Et dans notre façon d'agir en cours de route, c'est important de démontrer que ce n'est pas nécessairement une valeur ajoutée pour les citoyens d'avoir un interlocuteur, c'est aussi une valeur ajoutée pour l'organisation. Ouais. La raison d'être d'une administration municipale, parce que dans mon cas, on parle de Montréal, c'est de rendre techniquement les meilleurs services aux citoyens. Et le fait d'avoir quelqu'un qui le regarde de façon indépendante, qui n'est pas pris dans les habitudes ou les façons de faire habituelles, qui questionne, qui va challenger, Bien, au bout du compte, si les gens sont réceptifs, ça amène l'administration à rendre une meilleure décision, à mieux servir ses citoyens. Et ça, ça prend, c'est au fil des dossiers qu'on se bâtit cette réputation-là. Effectivement, si quelqu'un part en peur, qu'on crie constamment, qu'on est toujours en train de tout dénoncer et qu'on n'a pas une approche aussi équilibrée. Alors, il faut trouver le juste équilibre.
Ouais, c'est
qu'est-ce
vrai.
Qui respecte adéquatement les droits des citoyens, puis qu'est-ce qui impose par ailleurs pas une contrainte qui est trop excessive à la ville ou trop coûteuse, qui fait que pour faire ça, ben, je vais être obligée de couper ailleurs et de traiter ouais. quelqu'un d'autre des services. Et cette crédibilité-là, on l'a bâtie à chaque jour en discutant, en écoutant, en considérant, puis parfois en sachant être patient. Tu sais, ça nous est arrivé, moi, de voir des situations où je souhaitais une amélioration. On sentait pour toutes sortes de raisons que le timing n'était pas bon. Il n'y avait pas d'urgence dans ces cas-là. Alors, je mettais le dossier de côté, mais je disais au directeur, je vais revenir avec.
Okay.
Quand je sentais que le temps était
plus propice, oui, oui,
on revenait
oui.
on arrive. Alors, je vous dirais, là, dans les 95% des dossiers où on trouve un problème, on arrive à le régler avec le consentement du directeur. Et s'il participe à trouver la solution, les chances que ça soit implanté correctement sont beaucoup plus bonnes.
La fameuse phrase, la fleur ne poussera pas plus vite si on la tire vers le haut. Là.
C'est ça.
Faut attendre.
Puis dans les cas où on n'arrive pas à s'entendre, j'émets des recommandations formelles. Moi, j'en émets le moins possible. Ça a été mon approche. Pour moi, ça veut dire que je n'ai pas réussi à convaincre. Et même dans ces cas-là, c'est très, très rare qu'on finisse par avoir un non au bout du compte. Alors, on a un taux de succès de résolution des dossiers qui est entre 95 et 100 %, ce qui est extraordinaire, à mon avis.
Permettez-moi
et tout ça, avec la flexibilité du fait qu'on n'a pas de pouvoir d'ordonnance qui nous permet de garder notre procédure simple et flexible.
Ouais. Je me permets une généralisation. Pourquoi est-ce seulement une fois que les aménagements sont faits que l'on pense aux mesures d'accessibilité universelle?
Oui, ça, c'est moins vrai qu'avant, par exemple.
Okay.
Je dirais que quand moi, je suis arrivée comme ombudsman, effectivement, l'accessibilité universelle, les mondes en parlaient, mais ils ne pensaient pas. Quand il y avait un projet, on a travaillé beaucoup, beaucoup avec la ville. On a eu beaucoup de succès là-dessus et on a réussi à... Et ce qu'on a fait au fil du temps, c'est de faire un peu plus... À peu près ce que j'ai fait là, de façon générale au mois de mai récemment, c'est quand on savait qu'un projet s'en venait, moi, ce que je faisais, j'intervenais tout de suite en disant, écoutez, vous allez élaborer le projet. On veut que vous nous confirmiez tout de suite que la dimension accessibilité universelle va être prise en compte dès le départ. Et on arrivait dernièrement à toujours avoir cette confirmation-là qu'ils étaient pour impliquer. Souvent, ils font affaire avec des entreprises externes, des conseillers externes qui sont spécialisés en la matière. Et on réussissait à l'obtenir très bien. Ça avait beaucoup, beaucoup changé dans les 10 dernières années. Là, ce qui arrive, c'est qu'on vit une crise un petit peu à Montréal. Là, c'est une situation d'urgence. Il y a beaucoup de réaménagements qui sont faits dans une optique, à mon avis, qui est probablement positive, c'est-à-dire qu'ils veulent permettre aux gens d'occuper la ville qui est libérée des voitures, puis en respectant la question de la distanciation. Mais ça se fait rapidement. Et souvent, quand les choses sont faites rapidement, il peut y avoir des dimensions qui ne sont pas prises en compte. Alors, basé sur l'expérience acquise au fil des 17 années ou en poste, j'ai jugé pertinent de tout de suite envoyer à tout le monde. Ce n'est pas sur un dossier particulier, ce n'est pas sur un aménagement particulier, mais leur dire, écoutez, depuis le temps que je suis là, on a vécu plein de situations où on a déjà travaillé avec la ville, puis on a convenu qu'il y avait des principes importants qui devaient être pris en compte. Je vous invite et je vous les rappelle pour être sûr que vous allez les prendre en considération.
Ouais, ouais.
Alors, c'était vraiment dans une optique préventive que je le faisais. Naturellement, au moment où on le fait, c'est quand on a commencé à réaliser qu'il commençait à avoir des changements importants sur la ville. J'avais cette préoccupation-là, même si je n'avais pas de plainte encore. Puis c'est vraiment pour ça que je l'ai fait, en disant, ben pensez-y, parce qu'autrement, nous, on va toujours intervenir après pour faire défaire et refaire,
ben,
ou refaire
sûr.
Autrement.
Puis une des difficultés,
pour personne.
Une des difficultés, autant pour vous que pour la ville, c'est que il y a différents joueurs. Là, je pense à la STM, qui peut également influencer dans ses couloirs sanitaires, parce qu'il faut placer les arrêts quelque part et tout. Et ça, évidemment, vous n'avez pas droit de juridiction. Est-ce que, parce que vous quittez après 17 ans, en terminant, est-ce que vous avez un mot à dire sur votre successeur...
Oui, je connais très bien Maître Nadine Mailloux. Il va prendre la relève à partir du début du mois d'août. C'est actuellement l'ombudsman de la ville de Laval. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer à plusieurs reprises parce que c'est la vice-présidente du Forum canadien des ombudsman dont je suis la présidente.
Ah oui, okay.
Alors, c'est quelqu'un, je pense que moi, je me suis pas du tout mêlée du processus de recrutement de mon successeur, mais je pense que je peux rassurer les citoyens de Montréal qu'il y a quelqu'un de très compétent qui arrive en poste et qui va, la qualité du service ne sera pas du tout affectée. Mon équipe est très heureuse de l'arrivée de Nadine.
C'est la retraite pour vous ou vous faites autre chose?
La retraite, c'est mon plan actuel. C'est toujours un peu inquiétant de partir à la retraite quand on a plein d'énergie, mais c'est ça qui est mon plan actuel.
Okay.
Et je n'ai rien de prévu là, pour les mois ou l'année à venir.
Maître Joanne Savard, Ombudsman encore pour quelques semaines. Merci beaucoup pour ces 17 ans. Merci à Jean-Sébastien, à Christiane et à vous. Ben, je vous souhaite une bonne semaine.